Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 9 juin 2026, il est 6h avant minuit. Merci de nous écouter à Rennes sur le 88.4 FM et dans le reste de la Bretagne sur Radio Boa. Point météo, un nouvel épisode de Fort Chaleur est attendu ce week-end à Rennes. Malheureusement, vous ne pourrez pas aller vous rafraîchir aux étangs d'Apigné. La ville de Rennes vient de prendre un arrêté interdisant la baignade sur le site. En cause, la présence de cyanobactéries et la concentration en microcystine. Alors qu'est-ce que c'est ? Juste des micro-organismes qui peuvent produire des toxines présentant un risque pour la santé des humains et des animaux. Désolé, donc il faudra trouver autre chose pour avoir moins chaud. Courage, en avance les Rennaises et Rennais. Tout de suite le flash d'Aïsa.
14 morts et une trentaine de blessés. La ville de Tyr au sud du Liban a été visée aujourd'hui par un bombardement israélien. Un ordre d'évacuation de l'État hébreu avait été donné dimanche en, je cite, « prévision de frappe contre Hezbollah ». En dépit de l'accord de cessez-le-feu convenu entre Israël et le Liban hier soir, des frappes réciproques ont repris. Israël et le Hezbollah ont poursuivi les attaques dans une quinzaine de localités au sud du Liban. La ville de Tyr regroupe notamment deux sites protégés par l'UNESCO. Un inscrit au patrimoine de l'humanité a été endommagé. Rome ouvre une enquête contre le ministre israélien de la Sécurité nationale. Itamar Ben-Gvir est soupçonné de crimes de guerre et de torture. Léonore, tu nous en parles.
En effet, Aïsa, l'Italie scrute actuellement les faits et gestes de Ben-Gvir pour établir si oui ou non il est responsable de mauvais traitements infligés à des militants et militantes de la flottille pour Gaza. Le 18 mai dernier, Israël a en effet arrêté plus de 430 militants et militantes de différentes nationalités après les avoir interceptés dans les eaux internationales. La flottille tentait de briser le blocus israélien imposé au territoire palestinien.
Et que s'est-il passé pendant cette arrestation ?
Sur internet, des vidéos ont circulé. Sur l'une d'elles, on voit le ministre israélien de la Sécurité nationale se moquait de militants aux mains attachées. Il avait alors déclaré, je cite, « Bienvenue en Israël, c'est nous qui sommes les maîtres ici. La colonie de vacances est terminée. Quiconque agit contre l'État d'Israël trouvera face à lui un État déterminé. Le peuple d'Israël vit. » Les activistes ont dénoncé des violences commises par les autorités israéliennes durant leur période de captivité. L'enquête italienne fait suite à celle ouverte pour torture et crimes de guerre par la France vendredi dernier à la suite d'un signalement du Quai d'Orsay. Malika Baouya, niçoise présente dans la flottille, évoque des actes de torture dans les colonnes du journal Le Monde. Gravement blessée au cervical, elle a d'abord dû être hospitalisée d'urgence en Turquie avant d'être rapatriée en France. Une situation qui n'est pas prise à la légère par le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani. Il a déclaré que Rome, je cite, « continuerait à faire pression pour que l'Union européenne sanctionne Ben-Gvir ».
Il me semble que ce qui a fait du bruit, c'est aussi la réaction du ministre de la Sécurité nationale.
Alors en effet, Ben-Gvir a réagi sur X en tweetant « Le pays de la botte est devenu le pays des tongs ». Sans surprise, la référence à la forme géographique de l'Italie n'a pas plu à Antonio Tajani. Il a qualifié la réaction d'inacceptable et d'indigne pour un ministre.
Merci Léonore. Plus d'un mois de manifestations en Bolivie face aux barrages routiers et à la foule réclamant sa démission, le président Rodrigo Paz reste ferme. Le Parlement bolivien a approuvé dimanche un texte l'approuvant, l'autorisant à recourir à l'armée pour lever les barrages routiers. Depuis 5 semaines, les Boliviens et Boliviennes bloquent la circulation. Ils et elles reprochent au chef de l'État, arrivé au pouvoir il y a 6 mois, la hausse de l'inflation et les salaires trop bas. Rodrigo Paz, lui, affirme que les manifestants et manifestantes sont liés au narcotrafic. Selon lui, les barrages privent la population de nourriture et de soins. Suite à cela, de nouveaux affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et manifestantes et manifestantes, notamment dans la ville de Cochabamba. Un TGV sur 3 annulé demain en raison d'une grève des cheminots. Le trafic des TER pourrait lui aussi être fortement perturbé. 4 syndicats représentatifs de la SNCF réclament un moratoire sur l'arrivée de la concurrence en France. Les salariés de l'entreprise ferroviaire demandent une augmentation de salaire de salaire et augmente également sur la suppression de 5 jours de repos. Il et elle mentionne aussi une hausse des accidents du travail de 15,9% entre 2024 et 2025. Autre problème, une augmentation de 40% des arrêts maladie liés à la santé mentale sur 5 ans. Depuis janvier, 13 cheminots et cheminotes se seraient suicidés. Confinés dans l'hôpital de Bacha à Paris, ils veulent saisir le juge des libertés. Julia et Roland Settre ont voyagé sur le navire Monto Odius où s'est déclarée une pandémie d'antivirus. Depuis près d'un mois, ces retraités sont sous quarantaine. S'ils et elles ne sont pas malades, leurs surveillances médicales ne sont pas terminées. Le couple de sexagénaires dénonce des conditions presque carcérales, sans accès à l'extérieur et un suivi médical strict. Aujourd'hui, Julia et Roland espèrent pouvoir vivre les 2 semaines de confinement restant à leur domicile. Le meurtre de Liana, 11 ans, dans le Gers, a mis en lumière un dysfonctionnement de la justice. Après un appel des collectifs féministes et de la protection de l'enfance à 19h, René et René se sont retrouvés devant la cité judiciaire. Avec Léonore, nous nous sommes rendus sur place.
Pancartes multicolores, slogans de protection de l'enfance, ils et elles sont 800 devant le tribunal de Rennes. Toutes et tous sont venus rendre hommage à Liana, dénoncer les défaillances d'un système judiciaire sous pression, montrer que les enfants ne sont pas des variables d'ajustement. Pour ces 30 minutes de rassemblement, Élise et Aurélien sont venus avec leurs 3 enfants.
Donc il y a Octave qui va avoir 7 ans, Charlotte qui a 4 ans et il y a Soline qui a 3 mois.
3 mois.
Voilà. Ouais, bah, c'est leur droit. Donc ils ont toute leur place ici et puis il faut les écouter surtout. On ne les écoute pas beaucoup. On a envie qu'ils soient conscients qu'il y a certaines choses qui existent et qu'ils ont le droit de dire que ce n'est pas normal et qu'ils ont le droit d'être respectés.
Les associations prennent tour à tour la parole. On sent l'émotion dans la voix de la représentante du collectif Nous Toutes Rennes.
La société est remplie d'hommes, bien sous tout rapport, qui commettent des violences sur les enfants, sur les femmes et les minorités de genre. Combien faudrait-il de prison si nous voulons tous les punir? Pensons-nous que les mettre tous en prison changera la base de ce qui conduit à commettre ces violences?
À l'abri, sous le porche de la cité judiciaire, 2 avocates du barreau attendent leur audience malgré l'heure tardive.
C'est bien que les gens se mobilisent aussi sur ces questions-là et que ce ne soit pas que les acteurs judiciaires, que ce soit toute la population qui se sente concernée.
De toute façon, on en revient toujours au même. Il n'y a pas assez de moyens, dans tous les domaines de la justice, hein, que ce soit les greffiers, les magistrats, les policiers, enfin voilà, on sait bien que... Maintenant, il a demandé à ce que toutes les plaintes soient reprises, mais s'il n'y a pas de personnel pour reprendre, ça ne va pas marcher. Donc c'est bien, mais il faut que ça soit suivi par des moyens et du personnel, quoi.
Dans le département d'Ille-et-Vilaine, ils sont près de 1700 à s'être mobilisés.
Un reportage réalisé avec Léonore. Face aux épisodes de forte chaleur, on végétalise en abattant des arbres. Dans la cour de récréation de l'école de Gantel à Rennes, 30 d'arbres donnent de l'ombre aux plus jeunes. Pourtant, 7 de ces végétaux en fin de vie sont sur le point d'être abattus et remplacés. 2 jeunes arbres ne prodiguent pas autant d'ombre, c'est absurde, déclare un des instituteurs de l'établissement dans les colonnes de Ouest-France. Pour la mairie, je cite, il s'agit de la meilleure décision. Ces arbres souffrant de la chaleur et de la pollution. Face à l'opposition de plusieurs enseignants et enseignantes, une pétition recueillant plus de 350 signatures, l'abattage est pour le moment suspendu. Le cinéma est un voyage. La semaine dernière déjà, Polycarpe Thiappé, le directeur du Festival International Numérique de Cotonou, donnait le ton au micro de Syllab. Du 4 au 7 juin, la 9e édition de cet événement s'est tenue dans différents lieux rennais avec pas moins d'une 30aine de films projetés. Au programme, un voyage vers le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Espagne et le Maroc à travers des documentaires, fictions, courts et longs métrages. Je vous propose un retour sur le festival. Aux Ateliers du Vent, 50aine de personnes se sont rassemblées pour le Festival International Numérique de Cotonou. Coussins par terre et projecteurs, l'idée c'est de faire comme à la maison pour les proches des cinéastes comme pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore.
Bonsoir à toutes. Merci d'être là ce soir.
Vêtue d'une tenue traditionnelle béninoise, Maëlle co-anime la cérémonie d'ouverture.
Pour moi, c'est important parce qu'on est tous héritiers d'une certaine histoire.
Et que les échanges entre la Bretagne et le Bénin remontent à plusieurs siècles, et notamment à travers la traite dite négrière, et qu'aujourd'hui, il appartient à nous d'écrire la suite de cette histoire et de montrer qu'on peut tous vivre ensemble et qu'on n'a pas à avoir honte de cet héritage.
Des mots qui résonnent pour Kalia Souleymane Akron, sa binôme de la soirée. Elle présente elle aussi son documentaire « Iba et l'esprit joueur ».
Polycarpe, il m'a énormément aidée sur ma propre projection. Du coup, j'avais aussi envie de lui rendre l'appareil. Et puis, en fait, à la base, je pensais même pas qu'on filme, allait être sélectionné. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je trouve ça hyper important de pouvoir faire vivre ce genre d'événement, parce que c'est aussi ce qui fait découvrir le Bénin. Enfin, en tant aussi que réalisatrice, je me dis, c'est aussi ce que je cherche à faire avec mon documentaire. Ça va de soi, on va dire.
Colline Wyss, co-réalisatrice et membre de l'association Un Monde qui s'accorde, présente elle aussi son documentaire Au rythme de Dakar.
Le but, c'est de te faire découvrir un petit peu le pays et à travers sa musique, avec comme fil conducteur, qu'est-ce que la musique ? Tout bêtement, mais en fait en puisant entre musique traditionnelle, urbaine, contemporaine, on se rend compte que tout est un peu lié, et notre but dans ces deux dans Au rythme de Dakar, c'est aussi de faire découvrir la musique et les arts à travers ce documentaire.
Pour Abdoulaye, artiste sénégalais, c'est une fierté.
Aujourd'hui, je suis très très ému de regarder ce documentaire ici. Mmh. Et vraiment, c'était vraiment vraiment de plaisir. Bravo à Colline et bravo à Amandine aussi et à toute l'équipe de 244 Pro et à toute l'association Au Monde qui s'accorde. Vraiment, merci beaucoup. C'était très bien.
Le pari est donc réussi pour ce festival qui a su trouver son public. Une soirée de projection de films et de vidéos d'art, est-ce que ça vous tente ?
Grave, dis-nous tout.
C'est la soirée digitale au féminin, digitale au masculin. C'est demain au 360 de Rennes. 8 artistes professionnels et amatrices projettent leurs films et vidéos d'art. La séance se déroulera en deux parties, l'une avec pour thème le monde du vivant, du paysage et de l'amour, et la seconde avec des films sur la pop culture, les internets et les questions de genre et d'identité. Si ça t'intéresse, Héloïse, et vous tous qui nous écoutez, rendez-vous au 4 bis Cours des Alliés dès 19h. C'est à prix libre avec un prix conseillé de 8 euros.
Merci pour ce flash, Aïza.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
C'est l'heure de l'interview avec Léonore ce soir.
Et oui, aujourd'hui nous sommes avec Toufik Edna, alias Belson, polo bleu si je peux me permettre. Vous êtes un auteur rennais et vous allez nous parler de votre dernier roman, Ville de Jean. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant de commencer, pour les auditoristes qui n'ont pas Ville de Jean entre leurs mains, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Je vois qu'il est juste à côté de vous. La couverture, peut-être le format.
Ville de Jean, ça parle de Ville Jean d'abord. Donc j'ai décomposé un petit peu le nom de Ville Jean du quartier en deux parties, la ville et Jean. Donc, dans ville et Jean, il y a deux éléments nécessaires. Donc, comment cette dalle, la dalle de ville Jean, elle s'est transformée en une ville un peu utopique, un peu fantaisiste, que Jean allait transformer. Et puis, il est devenu maire de Rennes. Donc, c'est une fiction, hein, c'est pas une réalité. Et c'est quelqu'un qui est issu... il était étudiant à Rennes 2, donc avec Kadour qui était aussi étudiant à Rennes 2. Donc ils se sont mis, après leur galère, tous les deux, ils se sont mis à vendre de la drogue. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc de trafic en trafic, ils sont devenus très importants dans la ville. Et après, donc, ils ont fini un des protagonistes, donc Jean est devenu maire de Rennes.
Et à qui est-ce qu'il s'adresse ce récit ?
Il s'adresse à tout le monde, à la société hein, en général, aux jeunes. Il s'adresse aussi aux gens du quartier, aux habitants. Il s'adresse aussi aux étudiants de Rennes 2, parce qu'il parle de Rennes 2. Il s'adresse aussi et surtout aux politiques, parce que parfois on a l'impression que la politique fait des choses, mais enfin, il parle énormément de faire des choses pour éradiquer le trafic de drogue. On entend hein, que ce soit par des politiques sécuritaires, hein, d'un côté. De l'autre côté, il y a un certain angélisme qui dit « oui, mais ça va changer, ça va venir ». Mais en fin de compte, c'est ce que j'ai décrit, hein, c'est un monstre qui se met, qui naît et qui se transforme, mais vraiment, on a un monstre Et il bousille pratiquement les vies des gens, les vies des habitants, la vie des habitants, la vie des citoyens, de la ville de Rennes et tout ça. Donc, pour le moment, c'est un peu calme. On a vu récemment, d'ailleurs, je l'ai écrit hein, dans mon livre, dans mon roman, on a vu récemment des coups de feu et puis même des assassinats hein, qui se sont produits dans ce quartier. Et on ne sait pas comment faire pour éradiquer. On a des gens qui viennent, qui disent « oui, il faut ça », mais en fin de compte, il faut aller chercher le problème ailleurs. Et d'ailleurs, moi je considère ce trafic de drogue qui était existant, hein, qui a existé depuis longtemps dans le quartier de Villejean, mais il était mineur et il était contrôlable. Mais aujourd'hui, il est incontrôlable. On a en face de nous une organisation qui est bien huilée, qui, même si on ramène, et c'est ce que je dis toujours, je fais un peu l'équivalent avec la ville de Marseille, où on a sorti l'armée pour éradiquer le trafic de drogue, mais on n'a rien fait, parce que ce sont des gens qui sont très bien organisés, et ce sont des gens qui ont une structure, si quelqu'un meurt aujourd'hui, tout de suite, il est remplacé. Donc, il faut aller chercher le problème ailleurs. Et ce problème, c'est ce que j'ai décrit d'ailleurs dès le départ du livre, où j'évoque la vie de Kaddour, et c'est une vie qui est terrible. Donc c'est la misère qui conduit au trafic de drogue, parce que Kaddour, c'est un étudiant de Rennes 2, c'est quelqu'un qui a quand même réussi dans ses études, il est venu jusqu'à l'université, et il se retrouve à ne pas pouvoir payer au moins les frais de son inscription. Et c'est à partir de là où j'essaie un peu de faire comprendre aux gens que c'est la misère qui est le terreau du trafic de drogue. On ne fait pas du trafic de drogue si on n'en a pas besoin.
Mais justement, c'est un roman fictif qui est quand même ancré dans des problèmes sociétaux actuels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur ces personnages, Kaddour, Zara et Jean, de quelle manière vous les avez pensés et construits ? Comment ça s'est créé ?
Le premier qui est apparu, je vous ai dit, hein, c'est Jean. Et je ne savais pas comment je vais le personnaliser. Au départ, j'ai dit, j'étais en train, je marche beaucoup, hein, je sillonne un petit peu, je fais une trentaine de kilomètres parfois en me parlant tout seul, parce qu'il n'y a personne sur le canal Saint-Martin, donc je pars jusqu'à Béton, des fois je dépasse et je reviens, donc je fais jusqu'à 5h, 6h de marche. Ça me permet au moins de me plonger dans les personnages, dans le roman, dans la structuration du roman et tout ça. Comment ça a émergé ? C'est un livre qui est venu comme ça, donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler de Villejean ? Et on m'a parlé hein, plusieurs fois, et on m'a dit, pourquoi tu n'écris pas sur Villejean ? Et en parlant de, en évoquant Villejean, et je me suis dit, pourquoi ne pas décomposer ce nom en deux ? Donc il y a Villejean, et puis Jean est apparu. Donc je ne savais pas comment le décrire. Mais je me suis dit, je vais profiter de ce que j'avais acquis comme expérience, parce que j'étais président d'une association à Abidjan qui s'appelle les Amis de l'Algérie pendant une dizaine d'années. Et cette association m'a permis de découvrir la vie des jeunes étudiants, des jeunes du quartier. Donc je les ai interviewés. J'ai jusqu'à présent des interviews qui sont sur le racisme. On a parlé du racisme, on a parlé de ça. Et plusieurs jeunes m'ont interpellé sur leurs conditions de vie. Entre autres, un jeune qui était étudiant de Villejean et qui m'a dit, voilà, en voyant ma tête, je suis tout de suite étiqueté soit vendeur de drogue, de shit, ou rappeur. Donc, je ne suis jamais un étudiant pour les gens. Et il est abordé tout le temps par des gens qui viennent demander un morceau de shit ou quoi que ce soit. Il devient, ça l'énerve un peu. Donc, il y a d'autres aussi. Donc, si vous voulez, ce roman, c'est un peu ce concentré de témoignages que j'avais. Je les ai mis d'une manière condensée sur une seule personne. Et c'est de là que le personnage de Kaddour est apparu. Kaddour, il est venu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Dès le départ, j'ai mis Kaddour. Allez, je suis parti là-dessus. Zara, c'est la grand-mère. Zara, elle est typique. Si vous avez lu le roman ou si vous allez le découvrir, Zahra, c'est la grand-mère, c'est l'esprit matriarcal maghrébin ou africain. On oublie souvent que la maman, c'est quand même le pilier de la famille. C'est vrai que le père, il essaie un peu de s'imposer comme quoi que c'est lui le chef de la famille. Mais détrompez-vous, moi, ma mère, elle était, c'est elle qui s'imposait devant toute la famille. Et puis aujourd'hui, même ma femme, elle s'impose dans la famille. Ils ont un caractère qui est assez spécifique. Et ça, Zahra, c'est ça. Zahra, elle a fui le Maroc. Donc j'ai situé un petit peu sa naissance. C'est dans le Rif. Et dans le Rif, elle a réussi son bac et elle ne savait pas quoi faire. Donc elle savait très bien qu'elle allait se marier après. Donc l'avenir, il est incertain pour elle. Donc pour acheter une carte postale, enfin un visa, si vous voulez, vers la liberté, c'est ce qu'elle disait dès le départ. Donc elle s'est mariée à un ouvrier marocain du Gros Œuvre. Et en fin de compte, ce mariage lui a permis de venir ici sur Rennes, Villejean. Et elle s'est installée avec ce que j'avais décrit, parce que j'avais beaucoup, je me suis informé en lisant des livres. Il y a un livre qui est très intéressant sur Villejean, où il développe toute l'histoire de Villejean. Est très intéressant. C'est les 30 ans de Villejean, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est quelqu'un qui a décrit l'atmosphère depuis la naissance de Villejean. Et Zahra, elle a assisté à ça. Donc je l'ai mise dans cet environnement où elle évoque son militantisme dans l'association des riverains de Villejean, la ARV, le combat et tout ça. Donc elle s'est retirée un petit peu de la vie familiale. Ahmed, bon, il travaille, il vient, et puis il y avait une rupture un petit peu, si vous voulez, de couple au départ. Et quand elle était enceinte, et c'est là où Ahmed a changé. Donc la naissance de Aïcha, la mère de Kaddour, et la mère aussi de Samir et de Youssef. Deux autres, Kaddour est le dernier. Donc la mère, la naissance de Aïcha a fait que Ahmed bascule lui aussi, parce qu'il voulait gâter cette fille, et il bascule tout de suite vers un supplément, et ce supplément, il le trouve dans la drogue. D'où après Aïcha, donc en s'habituant à l'argent et à la gâterie, son père Ahmed, il décède suite à une rixe. Tout de suite après, donc, elle reprend le trafic de drogue. Et en plus, elle est enceinte du premier, du deuxième, et puis de Kaddour. Ce sont des accidents. Et Zahra, dans tout ça, elle essaie un peu de couvrir. Et elle se dit, je n'ai pas fait mon rôle de mère parce que j'étais tellement dehors de la maison, j'aurais dû m'occuper de Aïcha. Et ainsi de suite, c'est comme ça que Aïcha, elle est morte. Donc j'ai un peu repris les événements de ce qui s'est passé dans le subway à un certain moment. Je l'ai appelé autrement pour ne pas avoir des problèmes, si vous voulez. Donc j'ai repris cette fusillade. Tout de suite après, donc Samir et Youssef meurent, donc il ne reste que Kaddour. Et Zahra, elle fait tout pour que Kaddour soit s'en sort. Donc c'est elle qui s'en occupe, elle l'éduque, elle l'emmène jusqu'à l'université à un certain moment. Donc il n'y a qu'une soupe, c'est ce que j'ai décrit. Donc pour le dîner, ils n'ont qu'une soupe où ils vont acheter un os, et cet os, il va servir, si vous voulez, d'ingrédients pour donner le goût à cette eau. Et à partir de là, donc c'est tout un. Et j'essaie un peu de décrire comment on bascule vers la misère et comment la misère, elle bascule vers l'inévitable, c'est-à-dire le trafic de drogue. Mais après, donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je peux continuer.
Non, mais je me permets juste de revenir. Vous avez parlé, il y a des personnages qui ont des origines algériennes aussi.
Marocaines,
ouais. Pardon. Vous êtes né à Sétif,
si oui, je me trompe pas. En Algérie.
En Algérie, voilà, c'est pour ça. Mais du coup, d'où vient votre attachement à Rennes et...
Écoutez, moi je suis venu ici à Rennes en 89, donc je me suis marié. Je ne savais même pas que j'allais m'installer à Rennes. On s'est marié, on est venu, moi et ma femme. On s'est installé au Maine, à la cité du Maine, rue du Maine, je crois, c'est ça. Et dans une chambre. Et là, d'ailleurs, j'évoque un petit peu cette histoire d'un autre couple, parce que les murs, c'était Enfin, c'était comme du carton, on entendait tout. Et puis il y avait de l'autre côté un Marocain qui chantait tous les soirs. Close your eyes. On l'entendait tout le temps à sa dolce. Et puis voilà, donc je me suis installé au Maine, dans une chambre universitaire. On était heureux. C'est là où j'ai découvert Vigeon. Mais je ne savais pas que j'allais m'installer à Rennes. Pour moi, je partais aux États-Unis parce que j'avais mes affaires, j'avais mon boulot et tout ça. Puis ma femme, elle faisait son doctorat ici au labo de d'histologie et de biologie. Et c'est comme ça qu'on a, voilà, l'aventure de Rennes a commencé. Hein, et je me suis installé après la rue Jean Moulin. Et de Jean Moulin, donc, on est parti un peu plus loin. Et puis après, tout de suite. Donc,
et voilà. Est-ce que d'avoir écrit Ville de Jean, ça a aussi impacté votre rapport avec la ville de Rennes?
Non, pourquoi?
Bah, ça peut. Il y a beaucoup d'auteurs qui apprennent à connaître aussi en plus en profondeur certaines villes en écrivant. Vous avez dit que par exemple vous aviez lu des choses
sur. Oui, les 30 ans. C'était pour m'informer. Moi, je fais ça tout le temps. Je m'informe avant de partir à l'aventure d'un roman. Hein. Enfin, c'est un peu pour rendre hommage à ce quartier qui le mérite. Hein. C'est pas parce que je décris la drogue et puis le cliché. J'essaie un peu d'évoquer le. La misère dans laquelle les Villejeanais vivent, hein, il faut le dire. Hein. Être étiqueté Villejean, tout de suite sur un CV, vous avez un refus. Et ça, c'est le témoignage des jeunes et des étudiants que j'ai vus. Hein. Donc aujourd'hui, être de Villejean, c'est être d'un quartier à cliché, un quartier de drogue, un quartier. C'est un peu dommage, quoi.
Et pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut retrouver et à quel prix? Est-ce qu'on peut acheter votre livre?
Écoutez, Ville de Jean, donc on le retrouve, vous allez à la librairie, vous le commandez, donc c'est facile, enfin, c'est sûr. Ou sur le site hédition.com.
Et bah parfait, merci voilà. Beaucoup, c'est noté.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Le mardi, c'est Chronique Fake News dans 6h avant minuit, et ce soir, c'est Anna qui nous parle d'une infox.
L'OMS injecte aux enfants un produit qui rend stérile. Cette rumeur, des milliers de parents zimbabwéens la lisent en ce moment sur TikTok et Facebook. Elle est fausse, bien évidemment, mais elle tourne en boucle portée par des comptes très suivis à chaque fois qu'une campagne de vaccination est annoncée. Alors le Zimbabwe a décidé de riposter en février 2026 avec une application mobile.
C'est quoi exactement cette application ?
Elle s'appelle Rere Mtuana et signifie « élever les enfants », une expression issue du Shona et du Ndebele, les deux langues nationales. C'est une adaptation locale d'un outil créé par l'UNICEF, déjà utilisé dans une quinzaine de pays en Europe et en Asie, avec plus d'un million d'utilisateurs. Le Zimbabwe est le premier pays africain à s'en emparer. Concrètement, un carnet de santé numérique, des rappels de vaccination, des conseils de nutrition, un suivi des étapes de développement de l'enfant. Elle fonctionne hors connexion, ce qui n'est pas un détail dans un pays où l'accès à Internet reste inégal. Et elle est disponible en trois langues, l'anglais, le Shona et le Ndebele.
Mais pourquoi une appli plutôt que, je ne sais pas, des campagnes d'information classiques ?
Eh bien parce que la désinformation est déjà sur les téléphones. L'idée est venue à une chargée de nutrition du ministère de la Santé, Shishikanda, après avoir vu en 2025 une influenceuse vanter les mérites d'un lait infantile en poudre plutôt que l'allaitement maternel. L'argument donné par l'influenceuse, ça ferait moins vieillir. Une aberration médicale servie comme un conseil beauté et vue par des millions de personnes. Mais derrière cet outil pratique, l'intention du gouvernement est claire, contrer la désinformation sanitaire en ligne.
Alors vu par des milliers hein, de personnes, pas des millions, mais pourquoi ce problème est-il primordial au Zimbabwe ?
Le taux d'allaitement maternel est de 42%, en deçà de l'objectif de 50% prôné par l'OMS. Le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans a grimpé de 23,5% en 2019 à 27% en 2025. Dans ce contexte, une fake news sur les vaccins ou sur l'alimentation infantile peut avoir des conséquences directes sur des vies. Et d'ailleurs, la désinformation sanitaire n'est pas un phénomène limité aux pays du Sud. En France aussi, à chaque campagne vaccinale, les mêmes rumeurs resurgissent, les mêmes accusations contre l'OMS, les mêmes théories complotistes recyclées. Ce qui est intéressant dans l'approche zimbabwéenne, c'est le choix du terrain. Plutôt que démentir les fake news après coup, l'idée c'est d'aller chercher les parents sur leur téléphone et de leur proposer une information fiable et utilisable au quotidien. en ne donnant pas un fact-check aride, mais plutôt une recette de légumes, un rappel de rendez-vous médical.
L'idée est bonne, mais est-ce que cette application fonctionne ?
Pour l'instant, l'application compte 6000 téléchargements zimbabwéens. À l'échelle mondiale, l'UNICEF note que seulement 5% des utilisatrices et utilisateurs restent actifs sur le long terme. Il est difficile de changer des habitudes qui sont parfois ancrées depuis longtemps. Et puis, les conditions parfois précaires des habitantes et habitants posent des défis difficiles à dépasser. Une mauvaise connexion Internet, des zones rurales mal desservies, des habitudes alimentaires liées à un pouvoir d'achat faible.
C'était la chronique Fake News signée Anna ce soir. On écoute le répondeur, on a un message.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Coucou, 6 heures avant minuit. Je sais pas si tu sais, mais il y a une librairie en projet. Une librairie café jeunesse qui aimerait bien se monter à Rennes, qui s'appelle Les Gamineries. Alors pour l'instant, c'est juste un compte Instagram qui s'appelle librairie.lesgamineries et qui du coup met en avant plein d'ouvrages jeunesse qui répondent aux enjeux actuels du moment et qui ont l'air d'être raccord avec une autre vision de l'éducation et de la façon dont on traite la jeunesse, les enfants. Moi, je sais qu'on a la courte échelle au centre-ville, mais bon, ça pourrait être bien d'avoir un peu plus de choix. Non pas que la courte échelle, ça soit pas bien. Mais bon, a-t-on vraiment trop de librairies dans sa ville et dans sa vie ? Voilà, si ça vous dit d'avoir une librairie café jeunesse à Rennes, où il fait bon vivre et où les gamins, c'est juste pas des trucs chiants qu'on veut exclure des wagons SNCF, et ben, encouragez ce projet, allez donner de la force et peut-être un petit peu de chiffre.
Merci pour ce bon conseil, chère auditeurice. Faites la même chose, donnez-nous vos bons plans à Rennes au 02 30 96 25 35. On vous écoute sur ce répondeur, on diffuse votre message à la fin de l'émission. Merci Timour pour la technique, à demain dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très bien.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.